Ce matin, de lire avec moi le psaume 103. Il fera le sujet de notre méditation, le psaume 103, un psaume que vous devez certainement très bien connaître. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Seigneur, mes frères et sœurs et moi-même, nous nous joignons au psalmiste pour dire en effet combien tu es digne de recevoir notre louange. Tu es précieux pour nous et nous savons que tu as fait de grandes choses de telle manière que aujourd'hui nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes combien, Seigneur, nous sommes des privilégiés parce que tu nous as rachetés et nous avons une espérance glorieuse. Oui, Seigneur, nous te prions ensemble que par ton esprit, il y ait un fleuve de louanges constant dans notre vie, parce que tu es digne de recevoir notre reconnaissance et notre adoration. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta patience, merci aussi de nous accorder ta grâce pendant ce moment de méditation de ta parole. Et à toi seul en revient toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, vous avez certainement remarqué que le psaume que nous venons de lire est un chant de louange, d'adoration, et c'est l'expression de l'amour que le psalmiste a dans son cœur pour Dieu en réponse à l'amour dont il a été lui-même le bénéficiaire. Et probablement vous avez aussi constaté qu'il y a comme plusieurs strophes dans ce merveilleux cantique. La première strophe, elle parle de ce désir que le psalmiste a que son âme, sa propre âme, soit capable de bénir l'Éternel. Puis il y a une deuxième strophe, nous le verrons dans un instant, où il est question de ce peuple de Dieu, dont pour nous l'Église, qui loue le Seigneur, qui l'adore, elle a des raisons de le faire, comme le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait aussi de nombreuses raisons de le faire. Après, il y a la troisième étape. Non seulement il y a l'âme du psalmiste, non seulement il y a le peuple de Dieu, mais il y a une invitation à l'humanité d'une manière générale, c'est-à-dire à l'homme, à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il obtient de lui, même si lui n'a pas réussi à comprendre l'amour de Dieu qui a été manifesté à son égard. Mais en tant que créature, il est exhorté par le psalmiste aussi à adorer le Seigneur. Et puis enfin, eh bien, il y a la dernière étape où il est dit que Dieu a son trône dans le ciel. Et vous avez remarqué, l'exhortation est faite même aux anges, eh bien, de louer, d'acclamer Dieu et de glorifier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Voilà donc, je dirais, la structure de ce psaume. Et nous allons essayer de reprendre point par point en mettant en relief les raisons pour lesquelles chacun d'entre nous, nous avons le devoir, la responsabilité, mais aussi, je dirais, la joie de dire au Seigneur notre reconnaissance et notre amour. Nous avons eu une exhortation par le Saint-Esprit ce matin, de nous adresser à Dieu avec notre cœur et du fond de notre âme. J'ai entendu cette parole, peut-être l'avez-vous aussi reçue dans votre cœur, et dans le message qui passait, il y avait ceci d'indiqué, « J'ai entendu ta prière, mais il a besoin, notre Dieu, d'entendre notre âme. Il y a ce qui sort de notre bouche et plaise à Dieu que ce soit toujours l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. Mais il arrive parfois que nous nous adressons à Dieu comme d'une manière habituelle en utilisant des mots et en utilisant des paroles dont nous avons l'habitude de prononcer, que nous avons l'habitude de prononcer, mais sans que notre cœur, sans que notre âme puisse vraiment être concernée par ce que nous disons. Et c'est une occasion pour moi de dire ce matin que notre Dieu qui regarde au fond de nous-mêmes, qui regarde au fond de notre cœur, eh bien, lui, il désire qu'il y ait cette expression d'un amour réel, d'une reconnaissance authentique par rapport à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Je constate dans le psaume que nous venons de lire que le psalmiste lui-même commence par exhorter son âme. Et il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il y a d'autres psaumes, juste, je dirais, je vais citer quelques-uns qui sont à côté de celui que nous venons de lire. Et je commence par exemple par le psaume 95. Et le psalmiste dit ceci, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. » Il s'adresse aux autres, les invitant à se joindre à lui pour chanter à l'Éternel. Le psaume 95, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Le psaume 98, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Vous constatez, c'est toujours une exhortation qui est faite aux autres. Chantez, chantez avec moi. Le psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Mais le psaume 103, alors ce n'est pas une exhortation pour les autres, c'est une exhortation que fait le psalmiste à sa propre âme, et il dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et qu'est-ce qu'il y a en nous? Eh bien, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a la conscience, il y a la mémoire, et tout cela, eh bien, doit servir à louer le Seigneur et à l'adorer comme il en est digne. C'est la raison pour laquelle il fait même ici appel à sa mémoire, puisqu'il dit ceci, « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a des moments où nous devons prendre le temps de repasser dans notre cœur combien le Seigneur, dans sa fidélité, a accordé des bienfaits extraordinaires dans nos vies, à notre âme, et combien nous sommes bénéficiaires d'un amour qui est sans limite. Et il fait, bien sûr, la description de tout ce qu'il a pu obtenir. J'ai l'impression que David, qui est l'auteur de ce passage, l'a écrit alors qu'il arrivait près de la fin de son pèlerinage terrestre. Parce que il parle de vieillesse, il parle de délivrance de la force, c'est-à-dire qu'il a traversé des moments difficiles, même sur le plan physique. Peut-être a-t-il senti à un moment donné que sa vie était en train de filer et il est reconnaissant à Dieu parce qu'au moment où peut-être il pensait qu'il n'y avait plus d'espoir sur le plan physique, Dieu est venu à son secours, l'a relevé et il dit « C'est lui qui me guérit de toutes les maladies ». Alors, j'aimerais que nous prenions en considération cela. Voyez-vous, quand cet homme bénit l'Éternel, il ne le bénit pas simplement parce que sa vie s'est écoulée sans épreuve, sans difficulté, sans souffrance, sans moment difficile. Mais il a connu, bien sûr, toutes sortes d'expériences très négatives. Et il commence déjà par parler de son propre péché. Mais il dit, et ça c'est quand même extraordinaire, et pour chacun d'entre nous, nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour cela. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Quand nous savons que David est l'auteur de ce texte, et que nous connaissons ce qu'il y a eu comme péché dans sa vie, que la Bible nous décrit par quel moment particulier il est passé. Je rappelle simplement, oui, David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais en même temps que la Bible déclare qu'il est un homme selon le cœur de Dieu, nous savons qu'il a été un menteur. Nous savons qu'il a été un adultère. Nous savons qu'il a été un meurtrier. Nous savons que cet homme a été animé de pensées violentes. Eh bien, Il exprime ici la reconnaissance à Dieu, parce qu'il peut dire, tu pardonnes toutes mes iniquités. Mes chers frères et sœurs, si nous faisions un retour en arrière dans notre propre vie, et que nous laissions l'Esprit de Dieu sonder notre cœur et nous rappeler ce qui a été notre passé. Écoutez bien, je sais que le passé, Dieu l'a oublié, Dieu l'a effacé. Il est dit à un moment donné dans l'Écriture qu'il jette nos péchés au fond des océans et il ne s'en souvient plus. Et si lui ne s'en souvient plus, nous non plus, nous ne devons pas nous en souvenir. Mais quand même, de la même façon que David ici le fait au travers de ce psaume, ne devons-nous pas nous rappeler, dans des moments comme celui-ci, qui est un culte de louange et d'adoration, la grâce qui nous a été faite. Quand voyez-vous, il y a des moments où c'est le diable qui nous rappelle le passé. Et là, nous devons lui fermer la bouche. Parce que nous sommes conscients de la grâce qui nous a été faite. Et nous avons été purifiés et lavés dans le sang précieux de Jésus. Mais quand nous nous rappelons de certaines circonstances traversées dans le passé, lorsque nous étions loin de lui, et peut-être même depuis que nous le connaissons, les turpitudes, les erreurs, les péchés qui ont été notre partage. Alors à ce moment-là, c'est pour dire au Seigneur, grâce te soit rendue, parce que tu as effacé tout cela. Et David en est conscient. Et voyez-vous, il ne peut pas rester avec la bouche fermée et il demande même à son âme de s'exprimer d'une manière constante, permanente. Mon âme bénit l'Éternel. Parfois, mais ce n'est pas la première fois que je parle de cela, nous sentons une sorte de lourdeur, d'empêchement qui se trouve là et qui bloque non seulement notre langue dans notre palais, mais nous empêche de nous exprimer avec la reconnaissance que nous devrions avoir pour notre Dieu. Écoutez bien, mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que puisque nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité, le moment de louange devrait être un débordement, comme un fleuve qui jaillit de notre âme et qui s'élève vers notre Dieu. Parce que si nous, qui avons été au bénéfice de la grâce de Dieu, nous n'exprimons pas notre reconnaissance, alors je vais dire, qui va le faire? Et la première des choses, c'est justement d'être reconnaissant à Dieu pour le pardon de nos iniquités. Aussi nombreuses sont-elles, nous savons que nous avons été pardonnés. Vous le savez, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que nos péchés sont pardonnés. Mais il est dit ici aussi, tu guéris toutes mes maladies. Et là, bien sûr, il peut y avoir quelque chose qui s'élève de la part du cœur de quelqu'un qui dit, mais en tous les cas, moi aussi, je suis dans une période difficile et je ne peux pas dire qu'il guérit toutes mes maladies. Alors écoutez bien, je voudrais ici vous dire que le Seigneur n'intervient pas toujours de la même manière pour venir à notre secours lorsque nous traversons une souffrance sur le plan physique. Mais il est capable de nous montrer que de différentes manières, il agit en notre faveur. Je vais faire mention d'une expérience personnelle. Voyez-vous, dans ma vie, J'ai eu l'occasion de voir le Seigneur intervenir directement, d'une manière miraculeuse, et d'ôter une maladie, et je dirais même quelque chose qui était dans mon propre corps, je dirais presque instantanément et d'une manière miraculeuse. J'étais un enfant, je devais avoir quelque chose comme une douzaine d'années, mon corps était couvert d'eczéma. J'en avais sur le visage, j'en avais sur le corps, j'en avais sur mes membres, avec des démangeaisons dont vous pouvez vous-même vous rendre compte que cela est particulièrement désagréable. Et juste alors qu'un serviteur de Dieu était de passage dans l'assemblée où je me trouvais à ce moment-là, sans que personne ne m'ait obligé de faire quoi que ce soit, ni qu'il y ait eu un appel particulier de la part de cet homme de Dieu. C'était un serviteur de Dieu qui venait de la ville d'Espagne, il était de passage dans notre église, et comme il y a eu ce temps qui devait être consacré à la guérison et l'imposition des mains, spontanément, mais je dirais poussé par le Seigneur, je me suis levé. Et vous savez, j'avais eu un traitement, et il y avait eu des pommades, il y avait eu toutes sortes de médicaments qui avaient été utilisés pour que je sois délivré de cela. Je ne sais pas si vous arriverez à me croire. Je dois vous dire que en 24 heures après l'imposition des mains, j'ai été complètement guéri de l'eczéma. Ça, c'était le miracle de Dieu. Par contre, il y a eu d'autres épreuves dans ma vie. Si je devais vous faire la mention de toutes les opérations que j'ai eues, vous seriez certainement étonnés, parce que il y a eu des passages semblables. Et quelqu'un pourrait me dire, oui, mais alors, là, c'est pas Dieu qui est intervenu. C'est l'homme avec sa science. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Pourquoi, après avoir reçu un triple pontage, Dieu m'a relevé au point que 3 semaines après, j'étais capable de continuer à prêcher dans la ville de Grasse. Et pourquoi d'une opération bénigne, simplement d'une appendicite, quelqu'un est décédé? Le même chirurgien est capable de mettre autant d'attention pour l'un comme pour l'autre. Mais dites-moi, même quand c'est un homme de la science qui intervient, vous ne croyez pas qu'il y a Dieu derrière? Vous ne croyez pas qu'il y a le Seigneur qui agit? Et aujourd'hui, je peux dire, oui, avec David, oui, tu es celui qui guérit toutes mes maladies. Parce que le Seigneur veille sur nous. Non seulement il s'occupe de notre âme, il nous délivre et pardonne notre péché, mais il guérit nos maladies, il veille sur nous et sur notre corps, et il est dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. J'ai l'impression que David a dû passer par un moment tellement difficile qu'il a vu la fosse être là. Je dois vous dire que c'est certainement l'expérience que plusieurs parmi nous ont dû faire. Mais même au dernier moment, Dieu est capable d'intervenir. Et quand bien même, il ne le ferait pas. Imaginez que pour moi, eh bien, j'arrive au dernier instant de ma vie et que la seule perspective, c'est en effet la mort. Mais pour un chrétien, c'est quoi la mort? J'ai assisté au départ de nombreuses personnes pendant l'exercice de mon ministère. Et ce qui m'a surpris, c'est de voir l'angoisse de ceux qui n'étaient pas prêts à rencontrer Dieu, malgré leurs pratiques religieuses, et je dirais même malgré leur fidélité aux réunions. C'est la raison pour laquelle j'ai fort apprécié cette parole. Dieu n'entend pas seulement que les prières qui sortent de notre bouche, mais il regarde vraiment au cœur et il sait la réalité de ceux que nous connaissons à titre personnel dans notre relation avec Dieu. Je dois vous dire que plus d'une fois, j'ai été étonné de me trouver auprès de quelqu'un que je considérais comme fidèle, puisque c'est certain, on ne pouvait pas dire que cette personne négligeait les réunions. Mais au moment du départ, j'ai assisté à de telles angoisses, à de telles frayeurs, même des fois à des cris. Et je me suis dit, mais comment quelqu'un qui, soi-disant, appartient au Seigneur est capable de trembler de cette manière-là devant ce qui est de toute manière le sort réservé à toutes les créatures? La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais si on est prêt, mais c'est une délivrance de la fosse. Ne croyez pas que je suis en train de faire une démonstration en parole. Je me suis trouvé dans des moments où moi aussi je sentais que ma vie ne tenait plus qu'à un fil. Mais Dieu s'est manifesté et je vais vous dire, aujourd'hui, je vous le dis, les yeux dans les yeux et en présence du Seigneur, je ne sais pas ce que sera demain, mais même si je dois mourir, mes frères et sœurs, que personne ne me pleure, parce que moi je sais où je vais. Et en fait, même avec cette perspective de la force, il y a une espérance, et cette espérance est celle qui nous délivre de la crainte de la force. Je comprends donc David qui ajoute à tout cela, tu es celui qui délivre de la force, et le terme qui est utilisé, c'est racheter en réalité dans le texte original, racheter ma vie de la force, exactement comme on rachetait autrefois un esclave mentionné dans le livre du Lévitique. Et il est dit, et puis, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde et qui rassasie de bien ta vieillesse. Quelle couronne nous avons les uns et les autres. Couronné, ça veut dire que nous faisons partie de la royauté. Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Mais ici, David dit, tu me couronnes de bonté et de miséricorde. Le roi possède une couronne avec des diadèmes. Nous, nous possédons la couronne de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Mes frères et sœurs, rien que cela devrait nous pousser à dire, mon âme, bénis l'Éternel. Et en tous les cas, je peux vous dire qu'au fond de mon cœur, il y a une profonde reconnaissance à Dieu, parce que toutes ces choses-là sont vraiment une réalité pour nous, si nous voulons les considérer à leur juste valeur. Et il nous fait rajeunir comme l'aigle. Ah, évidemment, physiquement, je suis bien loin de pouvoir m'envoler comme l'aigle. Et même pour monter sur l'estrade, il arrive parfois que je ressente quelques difficultés au niveau de mes jambes. Mais écoutez bien, ça encore, c'est peu de choses par rapport à ce qui se trouve à l'intérieur. Car voyez-vous, l'aigle, il a une possibilité, c'est de s'élever par-dessus les montagnes. Et vous et moi, nous pouvons être confrontés à certaines montagnes de difficultés. Et qu'est-ce qui nous fait nous élever au-dessus des montagnes de difficultés? C'est les ailes de la foi, non pas le recueil. Les ailes de la foi. Cette foi en Dieu qui nous permet de dire dans toutes les circonstances, et ça c'est une réalité, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et chacun d'entre nous, nous savons que par là où le Seigneur nous a fait passer, les chemins que nous avons pu traverser, tous nous ont amenés à une bénédiction plus grande auprès du Seigneur. Et après avoir exhorté son âme, alors à partir du verset 6, il commence à demander au peuple, finalement, de glorifier Dieu. Il dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais qui sont les opprimés? Bien sûr que c'est son peuple. David connaît l'histoire d'Israël. David sait que Israël a connu l'esclavage en Égypte. Il sait aussi comment Dieu l'a délivré à main forte et à bras étendus. Il a manifesté, il est dit ici, aux yeux des enfants d'Israël, ses œuvres, des œuvres glorieuses. Vous savez, la conversion dont nous sommes l'objet, c'est quand même un miracle de Dieu extraordinaire. C'est quelque chose qui est formidable et qui a nécessité de la part de Dieu une action puissante. Mais il est ajouté ici, il a manifesté ses voies à Moïse. Dans quel passage trouvons-nous cela? Dans le livre de l'Exode, et je vais simplement lire pour vous, au chapitre 33, et Moïse a demandé à l'Éternel quelque chose. Au verset 13, il est dit, « Maintenant, Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Et la réponse de Dieu est venue au chapitre 34 du livre de l'Exode. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voyez-vous, cette parole-là est la description de voix de l'Éternel. C'est-à-dire de sa manière d'agir, de sa manière de faire vis-à-vis du peuple. Et sa manière de faire, c'est tout ce que je viens de lire là. Il ne tient pas le coupable pour innocent et il ne tient pas non plus celui qui est innocent pour coupable. Il agit avec justice, il agit avec droiture, et les voies de l'Éternel sont toujours des voies justes. Moïse en a fait l'expérience, et David ici, en se rappelant de cela, eh bien, il le met en relief, comme pour dire au peuple, il ne faut pas croire, que notre vie, eh bien, va se dérouler sans difficulté, mais la voie de l'Éternel sera toujours une voie de justice, une voie d'équité, et même dans les moments les plus difficiles, eh bien, on pourra constater que Dieu est toujours avec nous. Et remarquez une chose. Il dit, Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Regardez comment souvent Certains chrétiens ont tendance à dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Dieu agit comme cela vis-à-vis de moi? Comme si Dieu, dans le fond, eh bien, marquait une forme d'injustice. Et comme malheureusement, semblable à des pharisiens, on a tendance à dire, mais je ne mérite pas cela. Eh bien, la parole de Dieu dit que Dieu ne nous traite pas selon nos iniquités. Parce que s'il nous traitait selon ce que nous sommes, eh bien, qui pourrait subsister devant lui? Et nous avons là le témoignage de cette grâce de Dieu. La colère de l'Éternel ne dure pas à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et il y a une déclaration formidable. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Voilà quelque chose qui est présenté devant nos yeux comme une suprême consolation. La bonté de l'Éternel est grande. Nous avons une petite notion au travers de cela. Et pourtant, est-ce que nous pouvons mesurer la hauteur des cieux par rapport à la terre? Et il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Mais il ajoute aussi, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Je ne connais pas de point qui puisse limiter l'Occident et l'Orient. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une distance mesurable, mais de directions qui vont dans un sens opposé, de telle sorte qu'il ne peut pas jamais, ces directions-là ne peuvent jamais se rejoindre. Autant on va dans une direction et de l'autre côté, aussi loin possible, jamais se rejoindront. Ce qui veut dire donc que Dieu, eh bien, lui, agit de cette manière-là en pardonnant nos péchés et en éloignant cela de nos propres vies. Quelle grâce! Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, David exhorte le peuple de Dieu à louer l'Éternel. Ensuite, il change. Au lieu d'employer le pronom personnel au pluriel, nous, il va dire il, parce qu'il parle de l'homme, de l'humanité. Et à ce moment-là, il dit l'homme. Une autre traduction dit, c'est assez étonnant, le pauvre homme, l'homme vraiment faible, le faible homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais même à cet homme-là, il dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et il y a comme une exhortation à l'homme, quel qu'il soit. Parce que même s'il n'a pas fait l'expérience que nous avons pu faire, nous, en prenant conscience de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus sur la croix, toute créature ici-bas sur la terre a quand même la possibilité d'avoir la vision de qui est Dieu. Dieu parle de différentes manières. Il parle au travers de la création, il parle au travers de ce livre, il a parlé les derniers temps, nous dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par la manifestation de son propre Fils, Jésus, qui est venu ici-bas sur la terre et qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il parle de cette manière-là. Et même si quelqu'un, eh bien, n'a jamais lu l'Évangile, quelqu'un peut avoir la révélation de la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible déclare que même ceux qui n'ont pas eu la révélation de l'Évangile seront jugés en fonction de la révélation qu'ils ont eue de Dieu, car dans leur propre cœur, ils ont pu établir une loi. Et Dieu les jugera d'après la loi qu'ils ont établie dans leur propre cœur. Donc vous voyez, l'humanité, elle peut prendre conscience que Dieu est grand, qu'il est aussi miséricordieux pour ceux qui gardent son alliance. Car voyez-vous, Dieu effectivement a traité une alliance avec les hommes. Et dans cette alliance, comme dans toute alliance, il y a des responsabilités réciproques. Dieu, de son côté, va tenir ses promesses. Mais de notre côté, il y a des ordres et nous devons obéir aux ordres de Dieu. Le problème à l'heure actuelle de l'humanité, c'est quoi? C'est que l'on rejette de plus en plus, même si, je dirais, quelques-uns le font d'une manière involontaire, mais ils rejettent de plus en plus des choses qui sont inscrites dans le fond de notre cœur comme une loi que Dieu a établie. Il y a la loi que nous trouvons dans la Bible, il y a une loi qui est établie en nous-mêmes. Et même l'être le plus pervers, il est capable d'établir une loi en disant « ceci est bon, ceci est mauvais ». Mais avez-vous remarqué comment les hommes vont en sens inverse aujourd'hui? Au point même d'établir des choses qui nous paraissent tellement, tellement renversantes. Par exemple, j'ai appris dernièrement, et vous avez dû le constater vous aussi, que certains sont en train de travailler pour essayer de mettre en place une loi, accrochez-vous bien s'il vous plaît, où on pourra dénoncer dans le cadre familial et surtout dans le cadre du foyer, la personne dans l'alliance, je dirais, de la famille qui ne fera pas les tâches matérielles qui sont exactes l'une comme pour l'autre. C'est-à-dire, vous voyez, mon épouse a une responsabilité à la maison, elle fait certaines tâches ménagères. Moi, je devrais aussi avoir la même part dans les tâches que mon épouse fait. Alors je veux bien l'aider, comme elle m'aide aussi. Mais vous voyez, au point même, s'il y a cette loi, qu'un jour, eh bien, ma femme va dire, eh bien, je me plains et je vais trouver monsieur le juge parce que mon mari, il ne m'aide pas et il ne participe pas au travail de la même manière que moi. Vous croyez que c'est juste ça? C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais ça nous fait sourire. Sauf qu'un journaliste était en train de dire, vous voyez, aujourd'hui, on sourit de ces choses-là, mais il y a une pression telle que bientôt, eh bien, cette chose-là sera présentée comme quelque chose qui est vraiment authentique et que nous devons respecter. Heureusement que mon Dieu, il a établi les choses d'une façon bien meilleure que cela. Je suis reconnaissant à Dieu pour l'aide qu'elle représente, pour le secours qu'elle représente. Et je dirais, non pas qu'elle soit, je profite de l'occasion pour dire cela, un être inférieur. Les gens du monde pensent que dans l'Église, eh bien, la femme est, puisqu'elle doit être soumise, un être inférieur. C'est pas vrai. C'est pas un être inférieur. Elle a été tirée du côté, comme l'a dit quelqu'un à juste titre, et non pas, heureusement, des orteils. Ça veut dire qu'elle n'est pas notre marchepied, elle n'est pas notre serpillière, elle est à côté de nous une aide précieuse, et nous devons évidemment prendre conscience de cela. Mais par contre, elle n'a pas été tirée non plus de la tête pour qu'elle prenne le dessus. Et la parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. Ça veut dire quoi? Autorité sur l'homme. Eh bien, ça veut dire qu'elle a une place qui a été réservée par Dieu. Il y a un ordre dans tout ce que Dieu a fait. Il y a un ordre même dans la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, égalité. Dieu le Saint-Esprit, égalité. L'homme et la femme sont égaux, et en Christ, encore à plus forte raison. Il n'y a pas d'infériorité de l'un par rapport à l'autre, mais il y a un ordre. Le Fils est soumis au Père, et le Saint-Esprit ne fait rien d'autre que de glorifier le Fils. C'est son rôle ici-bas sur la terre. Et il n'y a pas de hiérarchie dans la Trinité. Eh bien, de la même façon, il y a cette action dans la maison, dans le foyer. Et c'est une chose formidable. C'est précieux aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, l'homme, dans la création, est invité justement à glorifier Dieu, à lui rendre hommage pour tous les privilèges qui sont les siens, parce que notre Créateur a fait les choses très bien. Et c'est dommage que les hommes n'arrivent pas à comprendre cela. Et puis, je termine avec ça. On arrive à la dernière étape. Il s'adresse maintenant à encore plus élevé. Vous avez remarqué, il commence par lui, ensuite par le peuple, ensuite par l'humanité, et il termine de cette manière-là. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, car au verset 19, il est dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Il commande donc même là à ceux qui sont l'armée qui entoure le trône de Dieu dans le ciel. Et il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses serviteurs, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Voyez-vous, même là, eh bien, il y a cette exhortation, les anges. Dans l'Évangile, Jésus a parlé du service des anges, et à un moment donné même, il est dit que s'il avait voulu, dans un moment très difficile de son ministère ici-bas sur la terre, il aurait pu faire appel à une légion d'anges qui seraient venus pour lui porter secours. N'empêche que dans le désert et dans ce moment de tentation, à la fin de l'épreuve, les anges sont venus pour le servir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la Bible dit que autour du trône, il y a des myriades et des myriades d'anges qui servent l'Éternel et qui l'adorent et qui bénissent le nom de l'Éternel. Tout cela, mes frères et sœurs, j'ai voulu le dire en quelques mots ce matin. Pour vous faire comprendre, nous devrions être, nous, les bénéficiaires de la grâce de Dieu, eh bien des êtres débordants de reconnaissance. On n'aurait pas besoin qu'il y ait une pression. Si vraiment nous étions dans cette relation avec Dieu, relation intime, personnelle, cœur à cœur, rappelons-nous, Dieu voit ce qu'il y a dans notre âme, au plus profond de nous-mêmes. Si il y a cette communion avec lui, même avant de venir à la réunion ici, eh bien, ça devrait être un torrent qui déborde de louanges. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une accusation, c'est une exhortation. Et que Dieu nous aide les uns et les autres à prendre conscience de cela pour que quand nous nous retrouvons, eh bien, nous puissions dire, oui Seigneur, nous te louons parce que tu as fait de nous des adorateurs en esprit et en vérité, et cela doit s'entendre et cela doit se voir. D'accord ?